Alors, 5h46, c'est le temps de la chronique des apatrides anonymes avec Marie-Ève. Salut Marie-Ève.
Bonjour.
Ça
vous
va?
Allez bien?
Oui.
Oui,
très bien.
Aujourd'hui, je vous parle de trois sujets, en fait, qui vont impliquer certaines petites mises à jour. D'abord, je vous parle des certificats de sécurité qui ont été remis sur la sellette dernièrement, mais plus particulièrement le chef actuel de la GRC. On a appris que ce cher monsieur... comment semble-t-il, déjà Bob Paulson, alors qu'il était commissaire de la GRC en 2009, craignait des débordements avec les certificats de sécurité, en fait. C'est qu'il avait accordé une entrevue en octobre 2009 à un vérificateur là, pendant un processus qui servait à réévaluer les certificats de sécurité là, après qu'ils aient été changés en 2008. Lors de cette entrevue-là, il aurait dit, selon moi, nous invoquons trop la protection des sources et des méthodes du SCRS puis des méthodes des services secrets canadiens. Et il continuait en disant, en raison de la façon dont les certificats de sécurité sont appliqués, le système est complètement hors de contrôle. Donc, il semblerait que les groupes de défense, les organisations de défense des droits de la personne, puis les comités de soutien aussi aux victimes des certificats de sécurité, on n'était pas les seuls, en fait, à sonner l'alarme.
Ouais.
Il semblerait que même à l'interne, il y avait une espèce d'impression là où les principes de transparence puis d'imputabilité n'était pas complètement respecté dans les procédures liées au certificat de sécurité. Cette information-là a été obtenue en vertu de la loi d'accès à l'information par Mike Larson, qui est un prof en criminologie de l'Université de Polytechnique de Kwantlen, au BC. Et en fait, l'entrevue de Bob Paulson fait à peu près 2 pages là, sur les près de 80 pages en fait, qui a pu obtenir là, de toutes les entrevues qui ont été faites pendant ce processus d'évaluation-là. Ce qui me permet, en fait, de vous faire une petite mise à jour, parce qu'il y a encore des personnes qui sont sous le coup d'un certificat de sécurité au Canada. Il y en a 3, dont Mohamed Arkat, qui, lui, habite à Ottawa, qui est sur un certificat de sécurité depuis 2002. La semaine dernière, il avait ses audiences pour la révision de la détention. Bon, on s'entend, révision de détention... Mohamed Arkat est plus détenu dans une prison. On appelle détention à domicile, c'est-à-dire qu'il doit porter un bracelet GPS en tout temps. Il n'a pas le droit de communiquer. Il n'a pas le droit d'utiliser un ordinateur connecté à Internet ni de téléphone cellulaire. Il doit se reporter régulièrement à Immigration Canada, aux 2 semaines, il me semble. Et il ne peut pas quitter Ottawa sans la permission de l'Agence des services frontaliers. Donc, normalement, les victimes des certificats de sécurité ont droit à une révision des conditions de détention aux 4 ans. Mais je pense que Mohamed, ça faisait comme... Oh non, c'est même aux 6 mois, puis ça faisait 4 ans, c'est ça. C'est aux 6 mois qu'ils ont droit à une révision des conditions de détention, puis ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de révision. C'est le juge Noël qui est dans son dossier. Également, Mohamed Arkat va être en Cour suprême cet automne, plus précisément le 10 octobre, parce que la Cour suprême a accepté d'entendre sa contestation du certificat, sa contestation constitutionnelle du certificat de sécurité. Donc, ce sera la 2e fois que le certificat de sécurité est contesté. On se rappelle, la première fois, c'était avec Adil Sharkawi. Et effectivement, la Cour suprême avait déclaré que certaines dispositions des certificats de sécurité la rendaient inconstitutionnelle et avait renvoyé le gouvernement à ses devoirs pour revoir la loi. Et donc là, ce sera la 2e fois, ce sera la nouvelle mouture, là, mais bon, c'était en 2008. Donc, c'est un peu... Mohamed Majoub, un autre détenu en vertu des certificats de sécurité, lui, depuis 13 ans, il est dans l'attente là, d'une décision toujours sur la raisonnabilité du certificat de sécurité, puis aussi sur une motion qui a été déposée par ses avocats, une motion d'abus de procédure. Cette décision-là devrait tomber, là, dans les semaines qui viennent. Autre cas, autour des certificats de sécurité puis des mesures sécuritaires en immigration, on a beaucoup entendu parler des renvois vers la torture ou les transferts vers la torture, surtout aux États-Unis. Donc, on était au courant d'un certain programme là, officiel là, aux États-Unis de transfert de prisonniers ou de soi-disant terroristes vers la torture, des transferts illégaux, les Rendition Program, qu'on appelle, qui est un programme de la CIA, entre autres. On apprend que le Canada, en fait, constituant un rouage, rouage logistique important pour la CIA dans ses transferts de, dans ses transferts illégaux, là, pour la plupart, c'est qu'il y a des chercheurs de des universités Kent et Kingston et l'organisation de une organisation de défense des droits de la personne qui ont mis sur pied une banque de données qui s'appelle le Rendition Project. Donc, depuis des années, ils ont réuni et recoupé tous les renseignements qui étaient accessibles relativement au programme de transfert de la CIA. Et donc, ils ont mis ça en ligne, accessible maintenant, un moteur de recherche sur tous ces transferts-là qui ont été effectués depuis le 11 septembre 2001. Le moteur de recherche peut être consulté au www.therenditionproject.org.uk. Et on y apprend qu'au Canada, il y a eu au moins 27 circuits de vol qui ont été empruntés par une vingtaine d'appareils depuis le 11 septembre 2001. Là-dessus, il y aurait au moins 4 appareils qui ont servi pour du ravitaillement. Parce que, bon, des détenus, entre guillemets, là, des détenus illégaux, finalement, devaient être transférés ou bien des États-Unis ou bien, je sais pas moi, d'Afghanistan, genre, puis arrêter en Afghanistan et transférer aux États-Unis, manque de fuel en, en chemin, on arrête à Terre-Neuve pour ensuite ramener ces détenus illégaux aux États-Unis. Certains de ces cas-là étaient des cas connus quand même puis qui étaient documentés. La plupart des trajets, sauf que il y a un problème, c'est que la plupart des trajets qui sont considérés par les chercheurs soit suspects ou hautement suspects. Ça veut dire que par là, ils entendent que c'était des transferts illégaux ou encore des opérations de soutien logistique au programme de transfert vers la torture de la CIA. Donc, rien finalement pour redorer l'image du Canada.
Pas du tout, non.
Hein?
Pas du tout.
Non, vraiment pas. Et pour finir, oui, on va se laisser quand même sur une bonne nouvelle. Là. Ça en prend quand même. On n'en entend pas souvent parler. Je pense que c'était Simon qui vous avait parlé, en fait, d'une émission de télé-réalité, Border Security, qui est diffusée sur le canal National Geographic. Bien, juste pour vous remettre en contexte, parce que ça fait quand même quelques semaines, si c'est pas peut-être 2 mois qu'on vous en a parlé, c'est une émission de télé-réalité qui se passe soit à des postes frontaliers, soit dans des aéroports, où les gens filment, où l'équipe de production filme en fait des gens sans leur consentement, puis en faisant soit des protagonistes principaux là, du show, ou en les mettant en arrière-plan. Puis en mars dernier, c'était le 13 mars, il me semble, il y a eu un raid sur un site de construction à Vancouver où il y avait des travailleurs sans papier qui travaillaient. Plusieurs des sans-papiers qui étaient là ont été arrêtés et depuis, évidemment, déportés par l'Agence des services frontaliers. Sauf que l'équipe de l'émission, Border Security, l'équipe de production était sur les lieux pour filmer. Et même c'est Vic Taze qui lui-même a approuvé personnellement le fait que le producteur qui se nomme Force for Entertainment fasse une télé-réalité spécifiquement sur le travail de l'Agence des services frontaliers. Ça fait qu'autour de ça, il y a eu une femme, entre autres, dont le mari a été arrêté pendant le raid à Vancouver, puis ensuite déporté. Elle et plusieurs groupes ont mené une campagne, finalement, pour dénoncer, évidemment, je peux même pas m'imaginer qu'un producteur ait pensé faire des trucs comme ça, tu sais, où est-ce que c'est des gens qui se font déporter, on en fait une télé-réalité, c'est parce que c'est pas une télé-réalité, c'est la réalité, ouais, c'est la... en tout cas, c'est vraiment à orwellien, hein. Donc, c'est ça, il y a eu une campagne, et la bonne nouvelle, c'est que finalement, l'épisode qui a été tourné là, le 13 mars à Vancouver ne sera pas diffusé, ils ont retiré...
Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? Est-ce que c'est à cause du campagne ou est-ce que...
Oui, ouais, c'est à cause de la campagne. Mais là, maintenant, évidemment, ça, c'est un épisode parce que c'est une série d'épisodes, l'émission Border Security. Mais les autres, c'est toujours diffusé, cette émission-là. Ça fait que là, la campagne, c'est vraiment de focusser sur à la fois empêcher que cette télé-réalité-là se poursuive, que c'est scandaleux d'avoir une télé-réalité, finalement, qui fait du cash puis qui fait un spectacle, en fait, de la misère puis des souffrances des gens. Une autre volet de la campagne, c'est qu'on invite les gens à signer un formulaire de non-consentement, en fait. Comme je vous disais, c'est que ces images-là sont tournées sans consentement des personnes. Et donc, aussitôt que vous prenez l'avion, peu importe, vous pouvez comme avoir ce formulaire-là. C'est comme une autre forme de pétition en même temps pour montrer que les gens ne veulent, t'sais, consentent pas à ce que leur vie privée soit utilisée comme ça. Vous pouvez aller voir le site de la campagne www.cancelbordersecurity.ca. Vous aurez toutes les informations là-dessus, mais au moins... cette émission-là était. Puis je sais qu'ils ont, mais j'ai pas réussi à trouver l'info. Je sais que l'Agence des services frontaliers ont accepté de changer quelques affaires par rapport à leur politique au niveau de la vie privée, puis de qu'est-ce qu'ils permettent de fermer, de filmer, mais j'ai pas réussi à trouver les détails de qu'est-ce qu'ils ont changé plus particulièrement.
Mais c'est toujours troublant que. Juste en étant dans un aéroport ou à la frontière, je pense que vous donnez votre consentement à être filmé ou être sur leur émission de télévision.
Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça donc, que la campagne invite les gens à signer, à imprimer puis à signer un formulaire de non-consentement, puis de même l'envoyer à CBSC, d'envoyer au CBSC, qui est l'agence des services frontaliers, puis de l'envoyer à eux. De toute façon, sont tenus à garder ces informations-là. Pas secrète, mais je cherche le mot, là, j'ai un blanc. Confidentiel. Mais voilà, mais bon, mais quand même, ben, ça n'a pas empêché les gens d'être déportés, ça n'a pas empêché l'émission de continuer, mais en tout cas, cette campagne-là se poursuit actuellement. Là.
Merci, Marie-Ève.
Merci beaucoup, Marie-Ève.
Ben, de rien, ça me fait plaisir.
Et voilà ce qui conclut notre émission.